en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui l'un des grands noms de la biologie et plus spécifiquement de l'embryologie, Nicole Ledouarin, qui a été élue membre de l'Académie des sciences en 1982, qui en a été secrétaire perpétuelle de 2001 à 2005. Elle est depuis janvier 2006 secrétaire perpétuelle honoraire. Elle est également professeure honoraire au Collège de France, où elle a été élue en 1988. Nicole Ledouarin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, 7 questions récurrentes posées à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été, Nicole Ledouarin, jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Mais écoutez, vous savez que la plus grande partie de ma vie professionnelle s'est déroulée dans la recherche scientifique, mais que j'avais commencé ma vie professionnelle comme professeur de lycée.
De lycée, oui. 8 ans, non ?
Pendant 8 ans, oui. Et au bout d'un certain nombre d'années, je me suis rendu compte que je souhaitais faire autre chose que d'être professeur de lycée toute ma vie et que j'avais finalement envie de revenir à l'université et puis de reprendre contact avec la science telle qu'elle se fait, quelque chose que l'on perçoit quand on est à l'université et qui s'éloigne quand on devient professeur de lycée, parce que l'important pour le professeur de lycée, c'est d'enseigner les données qui sont bien établies et de surtout bien les communiquer, bien les faire comprendre aux jeunes. Mais on s'éloigne vraiment beaucoup de la science avec toutes ses incertitudes, toutes ses questions et tous ses espoirs. Et c'est cela qui est fascinant dans la recherche scientifique.
Alors, donc vous ennuyez un peu.
Je ne peux pas dire qu'on s'ennuie parce qu'on a beaucoup de travail.
Non, mais et surtout vous aviez un appétit d'autre chose.
Voilà. Alors, donc, j'ai essayé de revenir à l'université, c'est-à-dire de préparer une thèse. J'avais déjà 28 ans et c'était difficile de trouver le moyen de rentrer dans un laboratoire. Alors, j'ai fait une rencontre tout à fait par hasard, après plusieurs essais où je n'ai pas pu rentrer dans le laboratoire parce que je n'avais plus le profil. J'avais quitté l'université depuis trop longtemps parce que j'avais un métier, parce que j'avais d'autres... J'étais mariée, j'avais des enfants. Alors, on m'a dit, oh, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire de la recherche. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Il faut vous en contenter. Alors, je ne m'en contentais pas. Et il se trouve que j'ai fait une rencontre dans la rue d'une ancienne amie à moi qui était avec moi en licence. Elle m'a dit, comment, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai raconté que je cherchais un laboratoire, que j'aurais voulu essayer de faire de la recherche, mais que je ne trouvais pas. Et alors, elle m'a dit, mon patron, Étienne Wolff, il a fait comme toi. Il a commencé en étant professeur de lycée, puis il a réussi.
De la philo, non? C'est ça, lui?
Il avait fait de la philo. Et ensuite, pour passer l'agrégation de philosophie, il fallait faire un diplôme d'études supérieures, avoir une expérience en laboratoire, par exemple. Et il avait eu cette expérience à l'université, à la faculté de médecine de Strasbourg. Et il avait été passionné par la recherche et il avait changé d'orientation. Il avait réussi à changer complètement d'orientation et avoir un poste dans l'enseignement supérieur.
Et vous êtes allée le voir ?
Alors, je suis allée le voir, introduite que j'étais par mon ami. Et il m'a reçue très bien. Je lui ai dit, écoutez, je ne vous demande pas grand-chose, hein, parce que je ne suis pas sûre du tout d'être capable de faire de la recherche, ni même que ça, je vais aimer ça, que je vais me sentir capable de faire quelque chose. Mais je voudrais essayer. Donnez-moi seulement un coin de paillasse et un sujet, et puis des quelques conseils quand même. Et alors, il m'a dit d'accord. Et puis, ça a commencé comme ça. Et au bout d'un an, moi, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire. Et puis, Dieu merci, lui, il a trouvé que ce n'était pas une mauvaise idée. Et par conséquent, il m'a donné beaucoup d'aide. Il m'a aidé à devenir chercheur à temps complet, à obtenir le passage de mon poste de professeur à un poste au CNRS. Et par conséquent, j'ai pu me lancer comme ça.
Et puis, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que vous lui avez succédé.
Ah oui, mais ça, alors vraiment, ce n'était pas prévu du tout. Hein. Ouais, c'était vraiment vrai. Quelque chose qui est apparu, oui, en effet, au alors, cours de route.
Si on se place maintenant dans votre activité elle-même de chercheur, la date clé, est-ce qu'on peut dire que c'est 1969 et cette idée que vous avez eue, cette idée apparemment extravagante, de greffer des cellules d'embryon de caille dans un embryon de poulet. Est-ce que c'est ça la date clé dans votre activité scientifique elle-même ?
Alors, je crois que oui, il y a eu la préparation de ma thèse qui m'a permis de comprendre ce qu'était vraiment la recherche telle qu'on l'a fait, et puis qui m'a permis aussi de me familiariser avec le matériel expérimental qui était l'embryon, et plus particulièrement l'embryon de poulet. Et puis qui m'a aussi montré ce que c'était que d'avoir un problème scientifique à résoudre et d'essayer par tous les moyens de trouver une entrée pour arriver à répondre à des questions qu'on se pose. Évidemment, il faut se poser de bonnes questions, mais même une fois que vous avez des bonnes questions, il faut savoir trouver quelque chose pour arriver à y répondre, à quoi personne n'a pensé jusqu'alors.
Voilà, c'est ça. Hein?
Donc ça, c'était ma thèse. Ma thèse avait été très bien reçue. Et après, j'ai eu de la chance. Il se trouve qu'il y avait un généticien français qui élevait énormément de cailles. Il s'appelait Monsieur Boziguer. Il était à Gif-sur-Yvette, dans le grand laboratoire du CNRS de Gif-sur-Yvette. Il travaillait sur la vigueur hybride, donc il croisait des cailles. Et il voulait démontrer quelque chose qui allait à l'encontre des thèses nazies, à savoir que les hybrides avaient beaucoup plus de force, avaient beaucoup plus de moyens de se défendre que les races pures. La race pure n'avait pas les vertus qu'on voulait bien leur donner. Et alors, il avait pris comme matériel expérimental, parce qu'il voulait le prouver d'une manière scientifique, et il avait pris la caille. Il avait tellement de cailles qu'il ne savait pas qu'en faire, ça l'ennuyait de les jeter, et il avait entrepris de les proposer au laboratoire d'embryologie qui se servait de poulets, qu'ils étaient obligés d'acheter naturellement. Il leur a dit, écoutez, je vais vous donner des œufs de caille gratuits, vous devriez essayer de travailler sur la caille plutôt que de travailler sur le poulet.
Vous avez remarqué quelque chose d'extraordinaire.
Oui, alors, moi, il se trouve que j'ai eu ces œufs, et beaucoup d'autres l'en ont eu aussi, mais j'ai remarqué que le noyau des cellules était particulier. Il était particulier parce qu'à l'intérieur du noyau de toutes les cellules, il y a une petite organite qu'on appelle le nucléole, et on sait très bien de quoi il est composé, et on sait à quoi il sert. Mais il n'est gros que dans des cellules où il y a énormément de synthèse protéique. Et dans les cellules banales, comme les fibroblastes, par exemple, eh bien, le nucléole est très petit. Et moi, j'ai regardé les cellules de caille et j'étais très intéressée par le nucléole à cause de ma thèse, parce que j'avais travaillé sur le développement du foie. Et que quand on a un hépatocyte, on a une cellule qui fait beaucoup de protéines et elle a un très gros nucléole. Donc la grosseur du nucléole dans les hépatocytes, c'est un signe de différenciation hépatique. Et moi, je trouvais des cellules tout à fait banales qui n'auraient pas dû avoir un gros nucléole, avoir un énorme nucléole. Alors, j'ai trouvé ça bizarre et j'ai cherché à savoir de quoi il était fait. J'ai donc fait beaucoup d'études histochimiques sur ces cellules et j'ai vu que c'était de l'ADN, alors que ça aurait dû être un autre composé qui est l'ARN, qui ne se colorait pas du tout de la même manière. Et alors, comme j'ai vu qu'il y avait la même chose dans toutes les cellules de caille, je me suis dit, ben voilà, c'est un marqueur génétique, un marqueur stable. Et comme je savais bien faire des greffes et travailler sur l'embryon, faire de la microchirurgie embryonnaire, eh bien, j'ai eu cette idée de marquer les cellules comme ça.
Et c'est comme ça qu'on a vu arriver des poulets avec des ailes de caille, c'est ça, hein ?
Avec des ailes colorées comme celles de caille.
La portée d'une découverte comme ça, enfin d'une idée, d'une intuition comme celle-là, la portée à terme.
Mais la portée, elle a été assez importante.
Pour les profanes.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a montré qu'on pouvait suivre les cellules. Ce n'était pas une boîte noire. C'était plus une boîte noire. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il fallait l'appliquer sur des domaines intéressants. Et moi, je l'ai appliqué sur le système nerveux. Et j'ai étudié le développement de toutes les cellules nerveuses que nous avons dans le corps, qui sont différentes de celles, enfin, qui ne sont autres que celles qui sont dans le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Nous avons des quantités de réseaux nerveux un peu partout. Non seulement des nerfs qui se promènent partout et qui viennent innerver les muscles qui sont dans tous nos membres et partout, mais aussi des cellules, des ganglions nerveux qui régulent l'activité de nos organes internes. Par exemple, de l'intestin, par exemple, du volume des vaisseaux. Très important, le volume des vaisseaux. S'ils sont trop petits, vous allez avoir une pression artérielle qui va monter énormément.
Donc, tout ça à partir d'une...
Alors, tout ça, d'où viennent les cellules en question et comment elles s'installent pour former tous ces réseaux nerveux et puis pour former aussi des tas d'autres dérivés comme les cellules pigmentaires qui sont dans la peau, qui colorent les cheveux, etc. Tout ça, ça vient de la crête neurale. C'est une structure. Et puis alors, ce qu'on a découvert, qui n'était pas connu, c'est que c'est une structure qui a une autre importance, c'est qu'elle est à l'origine de presque tous les tissus de la tête. Et du coup, ça devient quelque chose, une structure qui a une importance évolutive. Comment on est passé d'ancêtres, comme les petits vers Amphioxus, qui ressemblent beaucoup aux vertébrés, mais qui n'ont pratiquement pas de tête, à des vertébrés qui, tout d'un coup, se sont mis à avoir une tête en même temps qu'une crête neurale.
Alors avec ça, vous
êtes... Et qui ont colonisé la Terre entière grâce à leur cerveau qui s'est développé beaucoup, et particulièrement chez les mammifères, et particulièrement chez l'homme.
Vous n'êtes pas passé très loin du Nobel avec ça, hein ?
Ah, ça, je ne sais pas du
pas
tout.
Pas très, très loin. Alors, deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel, a dit Nicole Ledouarin, sur votre domaine d'activité aujourd'hui ? Donc, les sciences, bien sûr, d'une façon générale, et la biologie, les sciences de la vie, de manière particulière.
Ben écoutez, les sciences, je pense que c'est une des grandes manifestations de l'homme et de sa sagacité, de son intelligence, de ses capacités d'apprentissage, de ses capacités de communication. La science est une des plus belles manifestations du cerveau humain. Il y a aussi l'art, bien entendu, et beaucoup d'autres choses, mais la science, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire, à mon avis. Alors, pour ce qui est de la biologie, si on fait un petit peu, juste un regard très rapide sur l'histoire des sciences, eh bien, on se rend compte qu'il y a eu d'abord la physique, qui quand même s'est beaucoup développée, d'abord à la fin du 19e siècle, et puis au début de la première moitié du 20e siècle, qui continue d'ailleurs. Mais la biologie était restée surtout une science d'observation. Les secrets de la manière dont fonctionnent les organismes étaient restés très élusifs.
Mais il y a encore des scientifiques qui considèrent que la biologie est une science mineure par rapport aux sciences
physiques. Mais ils se trompent.
Peut-être,
je ne sais pas. Mais
parce qu'il n'y a pas de modèle mathématique.
Oui, mais ça, ce n'est pas du tout...
Il n'y a pas de mots, quoi.
Ben, c'est-à-dire que c'est une opinion et que je ne la partage pas.
Revenons donc à ce que vous avez d'essentiel à dire sur la bio, sur
alors, la biologie aujourd'hui. La biologie a démarré vraiment le jour où on a compris pourquoi un chat a pour descendance un chat et pas autre chose. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le patrimoine génétique et comment le patrimoine génétique contrôle le développement d'un œuf, parce que les œufs des chats et les œufs des humains se ressemblent beaucoup. Et pourtant, les œufs des chats donnent des chats, les œufs des humains donnent des humains. Ce qui diffère, c'est le patrimoine génétique qui se trouve dans le noyau et qui est transmis par les gamètes. Par conséquent, c'est cette mémoire, en quoi elle consiste et comment se perpétue-t-elle. Alors, c'est ça qui a été la grande découverte, parce qu'on s'est aperçu que c'était une substance chimique. On le savait que c'était une substance chimique, mais laquelle et quelles propriétés pouvait-elle bien avoir pour permettre une transmission aussi fidèle? Et en même temps, pas tout à fait fidèle, puisque à chaque fois qu'il y a reproduction sexuée, il y a un être nouveau qui apparaît, qui n'est semblable à aucun autre qui a existé et qui n'est semblable à aucun autre qui existera. Le hasard de la reproduction sexuée qui donne la diversité du vivant. Alors, c'est en 1953 que Watson et Crick ont montré ce que c'était que l'ADN. Et puis, c'est les travaux qui ont suivi cette découverte-là qui ont montré qu'il y avait un code génétique et puis surtout qu'il y avait la capacité pour une molécule d'ADN d'être reproduite à l'identique à chaque fois qu'une cellule se divise. Par conséquent, la perpétuité était là, la stabilité et la capacité d'autoproduction. Qu'est-ce qui différencie la vie des cailloux, des choses inanimées? C'est la capacité de se perpétuer, de se perpétuer. La vie est immortelle. Depuis le moment où est apparue une bactérie, la vie n'a jamais cessé.
Alors, à partir du moment où on a découvert tout cela, ça a posé évidemment toute une série de questions éthiques. Nous, en France, on a fait un certain nombre de lois là-dessus, les lois de 2004. Il y a un grand débat actuellement sur la remise à jour de ces lois. Vous, qu'est-ce que vous auriez à dire et à demander d'essentiel quant à la modification éventuelle de ces lois? Sur quoi vous voudriez qu'on modifie
quelque chose? Les lois de bioéthique, c'est assez complexe.
Non, mais il y en a pour beaucoup.
Oui, c'est des lois qui régissent les mœurs.
L'essentiel pour vous.
L'essentiel, je crois qu'il faut faire confiance aux chercheurs. Je crois qu'il
ça,
faut
vous l'avez toujours dit, vous. Hein.
Je crois qu'il faut les contrôler.
Les laisser prendre leur temps, faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on trouve, par surprise. C'est ce que vous dites toujours.
Oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité, vous savez. Ça peut...
Il faut être déviant, quoi. Il faut sortir des schémas ordinaires.
Ah oui, si vous êtes quelqu'un qui croit à tout ce qui a été dit, Forget it, il ne faut pas faire de recherche. Vous ne réussirez jamais à trouver quelque chose de nouveau. Non, mais je pense que ça, c'est très important. Les lois de bioéthique, oui, il faut faire confiance aux chercheurs, parce que, mais il faut en même temps les contrôler, parce qu'on peut toujours avoir des déviants aussi parmi les chercheurs, et puis surtout, contrôler l'usage qu'on fait des découvertes.
Alors, prenons un exemple.
C'est un problème de société, n'est-ce pas ? Et ça, c'est quelque chose que la société doit décider.
Là, c'est du politique, quoi, au sens noble du terme.
Oui. Oui.
Prenons un exemple, parce que ces lois touchent évidemment des tas de choses, mais un exemple qui concerne directement ou indirectement votre activité, les recherches sur les cellules souches embryonnaires.
Oui.
Alors, pour l'instant, elles sont interdites théoriquement, mais on peut avoir une dérogation pour faire ces recherches, une dérogation qui vient de l'Agence de la biomédecine, à titre dérogatoire pendant 5 ans. Vous, est-ce que vous souhaitez que ça reste ainsi, ou est-ce que vous souhaitez, comme le désire le rapporteur donc, de la commission parlementaire, qu'on supprime ce délai-là et qu'on laisse un peu plus de liberté aux chercheurs ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Je pense que la situation telle qu'elle est n'est pas très élégante, parce qu'on travaille sur des cellules souches qui sont dérivées d'embryons. Elles ont été dérivées d'embryons dans d'autres pays que la France. On est obligé de les renouveler de temps en temps, ces cellules, parce qu'il peut y avoir des dérives. Et par conséquent, ça implique qu'on est d'accord avec le fait que de nouveaux embryons vont être encore utilisés pour cela. Alors, on laisse ça, cette chose être faite ailleurs qu'en France, mais en France, on utilise ceci. Alors, donc, on est tout à fait complice de ce qui se passe. Ça n'a pas beaucoup de
sens.
Et
qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse?
Qu'on laisse
un peu moins d'hypocrisie, quoi.
Bien sûr qu'on laisse les Français dériver des cellules à partir d'embryons humains. Alors, vous me direz, c'est très ennuyeux d'empêcher des embryons humains d'aller à leur terme, c'est-à-dire de donner des êtres humains. C'est un fait réel.
Certains vous accuseront de crime.
Oui, mais ça, vous savez, c'est quand même quelque chose d'hypocrite aussi. Pourquoi ? Parce que...
Intéressant, parce que vous êtes, vous êtes croyante, vous êtes...
C'est parce que, voilà, vous avez cette technique qui est la procréation médicalement assistée. Des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui viennent chercher de l'aide dans des cliniques de procréation médicalement assistée. Alors, ceci implique qu'on fabrique in vitro, avec les gamètes de ces personnes, des embryons, et qu'on les réimplante chez la maman future. Seulement, on fait toujours un peu plus d'embryons qu'il n'est nécessaire, de façon à en avoir en réserve, au cas où l'opération ne réussirait pas, et au cas où un deuxième enfant serait souhaité. Alors, le nombre d'embryons qui est en réserve commence à devenir très grand.
On les appelle les surnuméraires, c'est ça ?
Les surnuméraires.
Ils sont très encombrants.
Pourquoi est-ce qu'on en a beaucoup ? Parce que maintenant, on est capable de les congeler et de les garder dans des conditions où ils peuvent être, en quelque sorte, décongelés, réanimés à volonté. Alors, il est évident, et ceci, c'est la simple observation, que beaucoup de couples ne peuvent utiliser tous les embryons. Par conséquent, on leur offre de en faire don à la science dans les pays où la chose est autorisée. On leur offre d'en faire don à la science et s'ils ne veulent pas en faire don à la science, la loi dit qu'au bout de 5 années de congélation, on les détruit. Alors, en faire don à la science et dériver des cellules qui servent à la recherche et qui serviront peut-être à guérir des gens, c'est aussi noble que de les détruire.
Donc vous êtes partisan.
Ça, c'est un premier point.
Vous êtes partisan d'un assouplissement là-dessus.
Évidemment.
D'accord. Et deuxième point ?
Le deuxième point, c'est qu'il y a des méthodes contraceptives, comme par exemple le stérilet, qui consiste à tuer des embryons.
Ah bon ?
Eh oui. Parce que l'embryon se forme...
Il est déjà formé à ce moment-là.
...dans la trompe de l'utérus, tout près de l'ovaire. Les spermatozoïdes grimpent jusque là-haut. C'est là que se fait la fécondation. Et l'œuf descend le long de la trompe et en même temps qu'il descend, il commence à se développer, former un embryon. Quand il arrive dans l'utérus, il est sous forme de l'embryon qui est prêt à s'implanter. C'est à ce stade précis qu'on utilise les cellules pour faire des lignées de cellules souches. C'est le stade dit blastocyste. Le stérilet empêche l'implantation.
Donc il faudrait...
Tout simplement.
On pourrait dire la même l'implantation. Chose. On pourrait dire la même
Donc,
chose et interdire le stérilet, alors.
Ah ben oui.
Mais vous n'êtes pas parti.
Mais je pense que c'est une erreur C'est la même chose que de jeter des embryons qui ont été congelés, c'est-à-dire ça consiste à les faire disparaître et qu'il vaut mieux laisser ceux qui
travailler
sont utilisables. Ben oui.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, on va élargir les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde et de notre société. Qu'est-ce qui, sur ce plan, vous paraît, Nicole Ledouarin, essentiel à dire ? Il y a une part de jeu là-dedans, bien sûr, hein, parce que faire ressortir une seule idée de votre regard sur le monde, accepter la part de jeu. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire ?
Sur le monde.
Et notre société, qu'est-ce qui...
Oui, moi, je pense qu'il y a un grand mouvement actuellement qui est le mouvement écologiste, c'est-à-dire que faites attention à la planète, vous allez beaucoup plus loin qu'il ne faudrait dans l'utilisation des ressources de la planète et vous polluez la planète, vous la rendrez inhabitable, vous la rendrez hostile. C'est ça l'idée. Et ceci s'appuie d'une manière plus ou moins judicieuse sur le fait qu'il y a un certain réchauffement du climat, en accusant la communauté humaine d'être à l'origine du réchauffement du climat. Alors, tout ça, c'est un mouvement très important. Je pense que la prise de conscience par l'humanité qu'elle ne peut pas ne songer qu'à son bien-être et utiliser les ressources sans compter et sans se rendre compte qu'elles vont s'épuiser, c'est quelque chose d'important. Alors, ce qui me fait réfléchir, c'est l'augmentation énorme de la quantité d'êtres humains à la surface de la Terre. Le nombre de milliards que nous avons atteint l'a été récemment.
Mais ça vous fait peur ? Ça vous fait peur ? Vous pensez qu'on maîtrisera ?
Alors, tout le monde dit, les gens qui sont très optimistes disent ça va s'arranger, ça va se maîtriser, ça on va... Mais enfin, peut-être, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très, très inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant que la distribution des ressources, elle est très injuste, d'une très grande injustice. Les grandes, grandes fortunes sont de plus en plus grandes et sont entre les mains d'un petit nombre de gens. Et il n'y a pas d'intermédiaire pratiquement entre ces grands, grands possesseurs des ressources humaines et de l'argent et puis une immense masse et qui va être encore plus dans un état de dénuement désespérant.
Donc, problème.
Donc ça, moi, ça me paraît quelque chose de grave.
Alors, passons de la gravité à l'hypocrisie. La quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Nicole Ledouarin, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Écoutez, justement, moi, je réfléchis toujours à ce problème de l'inégalité de la distribution des ressources. Et puis, sans être très instruite dans le domaine de la finance, je pense quand même que l'idée que le marché se régule seul et qu'il faut le laisser faire et que tout va s'arranger, je crois que ça, c'est une erreur funeste et que c'est une hypocrisie terrible que développent un certain nombre de gens qui sont ceux qui en profitent le plus.
Mmh. Vous ne croyez pas qu'on est un peu revenu de ça quand même depuis 2007, qu'on est en train de se rendre compte que...
Je pense que ça a été une démonstration et que c'est bien dommage qu'on ait été obligé d'attendre qu'il y ait un cataclysme pour s'en rendre compte. Et je ne sais pas si les choses vont véritablement changer beaucoup.
Donc, deuxième élément d'inquiétude. Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est, Nicole Ledouarin, l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Écoutez, moi j'ai tendance à faire confiance dans l'espèce humaine. Parce que, vous voyez, elle est apparue il n'y a pas vraiment longtemps sous forme de quelques individus en Afrique. Et quand on se rend compte du chemin qui a été accompli, c'est-à-dire de la colonisation totale de la planète par l'espèce humaine... Je me dis qu'il y a quand même des ressources fantastiques chez l'homme. Donc même si on voit qu'il y a des choses terribles qui se passent, une grande cruauté chez certains, un désintérêt pour les autres, un égoïsme ravageur, je crois qu'il y a aussi dans l'espèce humaine des capacités de solidarité, des capacités d'intérêt pour l'autre, de sacrifice même, de capacités de sacrifice des uns pour les autres, qui sont grandes, et je crois que c'est ça l'espoir le plus grand. Alors, vous voyez, ce qui s'est passé récemment, là, hier et avant-hier, dans le midi de la France, je regardais ça à la télévision, je regarde ça.
Vous pensez aux inondations terribles.
Ah, les inondations. Et alors, on voit que des gens qui ne se parlaient pas beaucoup, qui ne se connaissaient pas, tout d'un coup, dans le malheur et la catastrophe, deviennent solidaires, se mettent à aider les autres, à aider leurs voisins, même leurs voisins éloignés. Enfin, je pense, par exemple, au moment du tsunami, des tsunamis il y a quelques années, il y a eu une collecte de fonds, d'argent qui a été énorme. Alors, ça n'a pas été peut-être très bien utilisé, parce qu'il y a toujours les gens qui cherchent à tirer profit d'une manière ignoble de malheur des autres, mais il y a quand même chez l'homme, je crois, c'est ça qui a fait que nous sommes si nombreux, et c'est ça qui fait que, malgré tout, la capacité qu'on a de s'autodétruire, la bombe atomique, elle a quand même été fabriquée. On ne l'a pas encore utilisée à une échelle qui pourrait détruire l'espèce. On est capable de se détruire, mais on ne le fait pas.
C'est le mystère du bien et du mal, quoi.
Ouais.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, Nicole Ledouarin, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter ?
Écoutez, moi, j'ai pas. C'est curieux cette question-là parce que j'ai pas la notion que j'ai eu un grand échec. Non.
Vous avez eu de la chance. Quand
non,
même.
J'ai pas eu de grand échec. Franchement, les choses se sont déroulées gentiment. J'ai pas eu de grandes déceptions.
Alors, prenons d'une façon générale le regard que peut avoir la biologiste que vous êtes. D'un point de vue scientifique et plus particulièrement donc, le regard d'une biologiste, vous ne considérez pas la mort comme un échec ? Presque au contraire, vous considérez la mort comme...
Quelque chose de naturel. Ah non, je
plus considère... que ça même. Plus que ça, vous...
Ah oui, la mort des cellules. Mais la mort de l'individu, c'est différent. Parce que l'individu, à cause du développement de cet organe extraordinaire qu'est le cerveau, l'individu a une vie particulière en dehors de la vie de ses cellules. Elle dépend de la vie de ses cellules.
Oui, mais ce que vous dites, vous, c'est que la vie des cellules est tributaire de la mort, en fait. Les cellules ont...
La vie de l'organisme est tributaire... La vie de l'organisme...
C'est la mort qui fait vivre, en fait, un peu.
La mort est aussi la reconstruction.
C'est ça.
Non, ce que je dis quand je parle de la mort et de la vie, c'est que notre organisme est le site d'une reconstruction permanente. S'il y a reconstruction, c'est qu'il y a eu destruction. Et la destruction, c'est la mort. Mais ça veut dire qu'il se renouvelle. Ça veut dire qu'il rajeunit en permanence.
Mais on peut
plus
pas
ou
dire
moins
la...
vite.
C'est ça. Mais on ne peut pas dire la même chose de l'homme d'une façon générale. On peut dire ça de la vie des cellules, mais pas de l'homme.
C'est-à-dire que... Ben, écoutez.
Est-ce que la mort de l'un est utile à la survie des autres, comme dans les cellules, quoi. Quand on lit vos travaux sur les cellules, c'est quand même étonnant de lire ça.
Je vous lis.
La mort des cellules joue un rôle aussi important que leur prolifération dans la construction du vivant. La mort des cellules est un procédé aussi naturel, aussi courant et aussi crucial pour le développement et la survie des organismes que ne l'est la vie même des cellules et leur prolifération. Voilà,
c'est
au niveau
vrai,
des cellules.
C'est vrai.
Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose au niveau
au
des
niveau
humains
Au niveau des sociétés humaines
oui.
Ben, imaginez un petit peu ce que
sacrée
serait...
Sacrée question, quand même.
Oui, mais elle est résolue rapidement. Parce que imaginez ce que serait notre Terre si tous les humains qui y avaient vécu et qui se seraient reproduits de la même manière étaient là. Ce serait un peu difficile. Donc, on est obligé d'accepter un renouvellement.
Vive Darwin, quoi. Mais en quoi votre travail de savant et de biologiste a-t-il enrichi la perception que votre foi religieuse vous donne de la vie ?
Ma foi religieuse ?
Question indiscrète. Hein.
Écoutez,
comme
moi
vous
j'ai
êtes officiellement membre, vous avez été membre du Conseil pontifical.
Membre de l'Académie pontificale.
Donc on peut le dire.
Non, je vais vous faire une petite correction là. Oui. Parce que l'Académie pontificale des sciences a été créée par un pape pour que la haute hiérarchie catholique soit au courant des développements de la science.
Dis pas n'importe quoi.
Pour qu'elle apprenne à partir de la bouche même des scientifiques les plus éminents ce qu'est la science et quels sont ses résultats. Ceci n'implique pas que les membres de l'Académie pontificale
soient
des croyants. Ah, il y a à l'Académie pontificale des juifs, des musulmans, même quelques-uns, et il y a des gens qui sont athées. Moi, j'ai été élevée comme une catholique, mais... Ma foi catholique n'est pas quelque chose qui soit un constituant important de ma vie.
Ouais. Et ça n'interfère pas dans votre travail, ni même ne l'éclaire d'une façon ou d'une autre ?
Non.
Non ? Il y a deux...
Je suis rationaliste un peu plutôt.
Ah oui, c'est ça.
Mais
est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une telle opposition aujourd'hui entre les positions de l'Église, de l'institution Église et les conceptions d'une bonne partie du monde scientifique, que ce soit sur la contraception, la procréation médicalement assistée, le clonage, l'euthanasie. Vous trouvez ça sain qu'il y ait une telle...
je trouve ça très regrettable.
Oui, oui.
Et c'est pour ça que je suis à l'Académie pontificale. C'est pour expliquer ce qu'est la science biologique aujourd'hui, quels sont les résultats que nous obtenons et en quoi ces résultats peuvent être bons pour l'humanité et non pas mauvais.
Donc éviter la parano, quoi.
Donc je ne suis pas du tout en accord avec les prises de position de l'Église catholique sur tous les sujets que vous venez de dire. Mmh. Et c'est pour ça que je suis à l'Académie pontificale pour essayer...
Faire bouger un peu, quoi. Autrement dit, vous êtes d'accord avec ce que disait Claude Allègre dans son dernier livre « La science et le défi du XXIe siècle », il n'y allait pas par quatre chemins hein, concernant l'Église. Et il disait ceci « La science progresse aujourd'hui plus vite que les mentalités et l'évolution psychologique des sociétés. » Autrement dit, qu'il fallait remettre en cause à la fois les balises traditionnelles de la philosophie et les balises traditionnelles religieuses. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je crois que à la fois la philosophie et les religions devraient se rendre compte de l'évolution des connaissances humaines et de ce qu'on peut en faire pour le bien et pour le mal. Mais ils devraient avoir une attitude beaucoup plus ouverte et peut-être justement connaître mieux ce qui se passe.
Mais prenons un exemple, le clonage à des fins de reproduction. C'est une chose qui vous semble envisageable ?
Non, le clonage à des fins de reproduction, non. Moi personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
L'eugénisme...
Ça n'a aucun intérêt. Ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à réaliser, le clonage des mammifères. Et puis, je crois que ce qui est merveilleux dans la reproduction sexuée, c'est qu'elle fournit la diversité. C'est qu'il y a des recombinaisons génétiques qui se produisent au moment de la formation des gamètes. Il y a le hasard de la rencontre des gamètes. Tout cet ensemble de choses fait qu'il est absolument imprévisible de savoir quelles vont être les caractéristiques génétiques de l'individu qui va être conçu. Par conséquent, il y a une variété énorme, une nouveauté, une adaptabilité des gens et des êtres grâce à la diversité génétique.
Et c'est ça qui fait le charme de la vie ?
C'est ça qui fait la force de la vie.
La force de la vie ?
Oui, oui.
Septième et dernière question de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, Nicole Ledouarin, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ? Question indiscrète. Hein ?
Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est très facile de répondre. Ma motivation, eh bien, c'est d'utiliser les forces que j'ai encore et puis les temps qui me restent à montrer aux gens à quel point la science est quelque chose de formidable et puis essayer de communiquer le mieux possible, le plus possible, ce que je sais et surtout ce que je sais des possibilités offertes par la science, des potentialités de la science et de la beauté de la science. Et donc, je voudrais communiquer ce que j'ai appris et communiquer ma passion pour la science.
Mais en vous adressant au grand public cette fois-là, c'est-à-dire...
Oui, c'est pour ça que j'écris des livres, comme que j'ai écrit. C'est évidemment, ça ne va pas très vite, ça demande beaucoup de travail, mais je le fais avec plaisir. Et puis je pense que c'est une bonne façon d'utiliser mes capacités et le temps que j'ai devant moi.
Mais encore, en même temps, quand vous faites ça, pardonnez-moi une remarque personnelle et familiale, mais c'est une façon d'être fidèle à votre mère, quand même, qui était institutrice. Et
tout à fait.
Vous avez le gène de la transmission.
Oui, je crois qu'elle m'a communiqué ça, peut-être par les gènes, mais surtout par l'exemple. Je suis sûre qu'elle serait
tout à fait
d'accord.
Qu'est-ce qu'elle vous disait là-dessus, sur la transmission
ben pour elle, vous savez, l'enseignement, parce qu'elle était institutrice dans une petite école en Bretagne. À côté de l'Orient, à Le Colmadon. Et à l'époque, beaucoup des enfants qui venaient chez elle, c'était ceux des familles les plus pauvres, parce que les autres allaient à l'école religieuse, l'école du bon Dieu, nous c'était l'école du diable. Et elle avait des enfants qui ne parlaient pas le français. Elle s'est donné comme mission de les faire tous aller jusqu'au certificat d'études. Elle voulait qu'ils sortent de l'école avec le certificat d'études en poche afin de pouvoir trouver un métier dans les postes, dans les différentes administrations, enfin, avoir un bagage.
Il y a eu à cette époque-là une génération fabuleuse. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Mona Ozouf, La composition française. Sa mère était institutrice en Bretagne, c'est la même chose.
Mais Mona Ozouf est une amie à moi et nous sommes tout à fait...
Fabuleuse bonne femme.
Tout à fait. Nous avons une expérience un petit peu identique.
Et en même temps, d'être arrivé à vous imposer dans un monde d'hommes. Tiens, on n'a pas parlé de ça. Vous êtes rentré en 82 à l'Académie des sciences, vous êtes rentré en 88 au Collège de France, qui sont des bastions de la masculinité. Hein. Vous étiez, je crois que vous étiez la troisième, si j'ai bien compté, au Collège de France. Oui. À l'Académie des sciences, vous étiez...
J'étais la deuxième avec Madame Grunberg-Manago. Oui. Nous étions deux cette année-là.
Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que vous avez été secrétaire perpétuelle, c'est de 2001 à 2005, c'est ça ?
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2006.
2006.
Cinq ans. Est-ce que j'avais atteint la limite d'âge.
Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait les choses différemment de ce qu'aurait pu faire un homme dans ses fonctions de secrétaire perpétuel?
Différemment,
oui.
Par la méthode.
Oui, est-ce que...
Oh, je crois que, vous savez, chacun fait les choses différemment.
Parce c'est que pas une question d'homme ou de femme, quoi. C'est...
Ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui tient au genre féminin ou masculin, mais je pense que ça correspond surtout à une certaine éthique, à des capacités diverses et qui sont réparties différemment dans les individus des deux sexes.
Donc l'apport des femmes à la science, ce n'est pas en tant que femme, c'est en tant que personne de qualité, quoi. C'est ça.
Ah ben c'est en tant que scientifique,
oui, c'est ça.
Pas en tant que femme, non.
Pas en tant que femme, hein.
Peut-être que j'ai eu beaucoup d'élèves femmes. Et là, peut-être que j'ai fait quelque chose qui était un peu particulier. C'est-à-dire que, vous savez, la génération qui a suivi la génération des gens qui ont été mes élèves, et ils ont été dans un contexte différent du mien. Évidemment, la société a beaucoup changé pendant la deuxième moitié du XXe siècle.
On leur a fait une place.
On leur a fait une place, mais enfin, il a fallu que la conquiert, cette place. Et ce n'était pas tellement facile pour elles non plus. Hein. Mm-hmm. Et peut-être qu'elles se sont dit, de certaines d'entre elles, qui voulaient, en particulier celles qui désiraient faire une famille, avoir une famille en même temps que de devenir scientifique, elles se sont dit, ben, on va peut-être aller chez cette dame parce que finalement, elle est passée par des expériences un peu similaires des nôtres.
Oui, parce que vous avez ces effarants. Comment avez-vous fait pour faire tout ce que vous avez fait, si je peux dire? Parce que vous avez fait une grande carrière scientifique et en même temps, une vraie vie de famille.
Oui.
De filles. D'ailleurs, vous...
J'ai quatre petits-enfants.
C'est ça, il y a un marqueur là. Vous en avez fait des... Enfin, scientifiques entre guillemets, elles sont médecins.
Elles sont médecins toutes les deux. Alors, comment j'ai fait? Ben, je ne sais pas, j'ai essayé de m'organiser. Pas perdre trop de temps.
Oui. Alors, petite question, nous en parlions avant que commence cette émission, ça vous semblait un peu surprenant, mais moi j'ai été encore plus surpris que vous en regardant vos décorations et vos titres de docteur honoris causa. Vous êtes grand officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, vous êtes grand croix dans l'Ordre national du mérite, vous êtes commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques. Vous êtes docteur honoris causa de 5 des plus grandes universités du monde. Vous aimez les honneurs ou...
Je suis contente quand on reconnaît ce que j'ai fait. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais enfin, on ne peut pas dire non plus que je recherche particulièrement.
Non. Bien sûr que c'était une consécration, mais quel sentiment ça procure de...
Parce que ça me fait
vous n'êtes pas 36
ça me fait plaisir,
en France à voir ça. Hein.
Ça me fait plaisir, mais en même temps, je me dis quelquefois que je me demande si je le mérite.
Oh là là. Pourtant, vous savez bien qu'on a parlé de vous pour le Nobel. Vous savez bien,
ah oui, on m'a dit ça, mais vous savez, on parle de beaucoup de monde.
Mais ça vous manque ou pas? Ça vous manque?
Ah non. Écoutez, moi, je suis contente quand j'ai quelque chose qui arrive, mais je ne vais pas souffrir parce qu'il ne m'arrive pas toutes les choses.
En fait, quand même, ça change une vie, non? Le Nobel.
Ah, mais ma vie est bien comme ça. Hein. Oui.
Allez. Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé dans le domaine scientifique qui fait de vous une femme aussi épanouie, aussi heureuse? Que je peux dire votre âge? J'ai le droit ou pas?
Oh non.
Non? Parce que vous faites 20 ans de moins.
Hein. J'y tiens pas, non, c'est gentil.
Vous faites 20 ans de moins. Est-ce que cette travail scientifique est à l'origine de cet épanouissement-là ou est-ce que...
Mais j'avais ma grand-mère qui était comme ça. Elle était très gaie et elle était très bien portante jusqu'à un âge très avancé. Et ma mère aussi, elle était pas mal non plus, très bien. Alors je crois que c'est génétique,
c'est
ça.
C'est génétique.
Vous savez, les gènes, c'est très important.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je trouve cette définition quand même assez étonnante. C'est un écologue, hein, que je ne connaissais pas, mais j'ai vu cette définition. Edward Wilson, ça vous dit quelque chose? Edward Wilson, parlant de votre travail de scientifique, et qui dit « Le scientifique qui réussit est celui qui pense comme un poète lors des rares moments d'inspiration et travaille le reste du temps comme un comptable ».
C'est vrai, j'aime bien ça.
Hein?
Oui, j'aime beaucoup ça. Travailler comme un comptable, ça veut dire qu'il faut être très près de la réalité, il faut être très près des choses telles qu'elles se passent et ne pas rêver trop. Mais il faut rêver à certains moments. Si on ne rêve pas, eh ben, on n'a pas non plus d'opportunité de trouver quelque chose de nouveau.
Vous savez ce que disait Flaubert, lui, pour les écrivains? Il était plus direct, lui. Disait, le grand écrivain, c'est 80% de transpiration et 20% d'inspiration.
Ah oui, si, j'ai entendu ça déjà. Oui,
vous le ressentez comme ça, en fait? Ça veut dire,
il faut beaucoup de transpiration, ça, je peux vous dire, oui.
Non, mais il faut une énorme discipline et en même temps être capable de libérer en soi... Une imagination, c'est clé, c'est fondamental, l'imagination.
Oui, il faut avoir des idées un petit peu folles de temps en temps.
Donc nimbus, donc tournesol, c'est
oui, oui,
c'est il faut avoir ce côté-là.
Il faut sortir de tout ce qui est considéré comme dogmatique. Hein. Il faut sortir de tout ça. de ce qui est considéré comme bien établi. Et se dire pourquoi ça ne se passerait pas plutôt comme ça.
Oui, toujours dans, toujours le point d'interrogation. Enfin,
oui, oui.
Pour faire avancer l'histoire.
C'est ça qui est amusant.
Merci Nicole Le Doirin. Je rappelle donc que vous êtes un grand nom de la biologie et de l'embryologie, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France. Merci et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci beaucoup.